France Inter. La rencontre avec l'inconscient est une aventure. On vous emmène cette semaine avec Caroline Eliachef.
Bonjour. Je rejoins donc à mon tour cette drôle d'aventure en me demandant s'il n'est pas inconscient de ma part d'avoir accepté d'y participer. On verra si j'aurai l'occasion de vérifier l'une des définitions de l'inconscient qui dit « L'inconscient, c'est ne pas savoir ce que je sais ». Puisque France Inter m'offre aujourd'hui l'opportunité de m'adresser à vous pendant une trentaine de minutes, ça me donne l'occasion d'aborder un sujet qui pourrait vous paraître futile, anodin, voire hors sujet. Il s'agit de la prise de rendez-vous avec un psychanalyste qui précède le premier rendez-vous. À moi de vous montrer, exemple à l'appui, en quoi chaque détail pratique peut être une occasion de comprendre ce que c'est que pratiquer la psychanalyse. Mais si certains parmi vous ont fréquenté un psychanalyste, ils ont peut-être remarqué qu'une demi-heure, c'est la durée moyenne d'une séance. Et au lieu de vous écouter, c'est moi qui vais vous parler. Cette situation inversée. Le psychanalyste parle pendant la durée d'une séance fictive. L'auditeur l'écoute en podcast, quand il le décide et autant de fois qu'il le veut. Est un dispositif original, inauguré avec talent par Juan David Nagio. À nous qui sommes maintenant plusieurs, de le rendre éthiquement valable. De plus, à la suite de cette demi-heure, comme le veut désormais la coutume, je répondrai aux questions que vous m'avez adressées après avoir écouté le podcast sur la page de l'inconscient sur franceinter.fr.
L'inconscient avec Caroline Eliachef sur France Inter.
Alors, puisque j'imagine qu'il s'agit pour moi d'une séance fictive, c'est par association libre, donc avec des digressions, que je vais vous faire appréhender qu'on peut être psychanalyste ou pas, donc occuper cette fonction bizarre avant même le début d'une cure. Les films et les séries qui se sont emparés du personnage du psychanalyste démontrent tout au contraire que le psychanalyste est un homme ou une femme comme les autres, sa banalité en quelque sorte. Ses fictions le montrent en dehors et dans son cabinet. Sa vie privée est souvent compliquée, voire en dehors des clous. Je crois que ça comble un fantasme très communément partagé, celui d'imaginer la vie privée d'un psy, qu'on soit ou non en analyse. C'est un peu comme d'imaginer ce que font les parents dans leur chambre à coucher. Alors oui, si vous en doutiez, le psychanalyste est un être humain comme les autres. Comme vous, il a un inconscient qui continue de le mener par le bout du nez, même après des années d'analyse. Mais un psychanalyste de fiction sort de l'imagination du scénariste ou du metteur en scène, qui a souvent lui-même été un analysant, c'est-à-dire quelqu'un qui a fait une analyse. Pensez au docteur Fletcher, incarné par Mia Farrow dans Zélic de Woody Allen. Ou à Nanni Moretti, interprétant Giovanni dans La chambre du fils. N'avez-vous pas tremblé pour Jennifer Melfi, interprétée par Lorraine Braccio dans Les Sopranos, apprécié le bon docteur Dayan, dans la version française d'En thérapie, plus thérapeute d'ailleurs que psychanalyste, comme l'indique le titre de la série. Et si vous n'avez pas vu la mini-série turque Bir Başkadir, je vous la recommande très chaudement. On y voit une jeune femme de la campagne consultant une psychanalyste de la ville et la plus professionnelle n'est pas celle qu'on croit.
Je suis censée faire quelque chose en particulier?
Nous pouvons discuter si vous voulez.
À quel sujet?
Il y a des choses qu'on ne révèle à personne. Il y a des émotions refoulées, impossibles à exprimer ouvertement auprès de qui que ce soit. Des émotions qu'on se cache parfois à nous-mêmes. C'est valable pour tout le monde, je vous assure.
Je remarque que, curieusement, ni dans les films ni dans les séries, je n'ai vu jusqu'à présent de psychanalyste d'enfants en exercice. C'est donc pas grâce aux films que je peux traiter le sujet que je vous ai annoncé, et qu'il vous tarde peut-être que j'y arrive enfin. En fait, je me suis inspirée des supervisions que je fais depuis des années pour transmettre à mes collègues ce que j'ai moi-même reçu, appris et expérimenté. Bien que je garde en mémoire ce que la psychanalyste Ginette Rimbaud, avec qui j'ai travaillé à l'hôpital Necker pendant plus de 20 ans, disait de la transmission. Elle tient à je ne sais quoi, à presque rien. Peut-être est-ce pour ça que je m'intéresse tant aux détails. Une supervision peut être individuelle ou collective. Un psychanalyste vient voir un autre psychanalyste, a priori plus expérimenté, pour lui parler de sa pratique et des difficultés qu'il peut y rencontrer. Sachant que mes collègues sont férus de théorie, car ils fréquentent des séminaires depuis des années, je ne rivalise pas sur ce terrain. Mais je me situe sur celui de l'articulation de la théorie à la pratique, car l'érudition analytique et une analyse personnelle ne suffisent pas à faire un psychanalyste. Pour pratiquer, l'analyste n'a en réalité qu'un seul modèle, celui de son propre psychanalyste. Alors il l'imite ou s'en détache pour trouver son propre style, précisément grâce aux supervisions. Quand il reçoit des enfants, il n'a pas de modèle psychanalytique et tout est à apprendre, voire à improviser. C'est pourquoi, en écoutant mes collègues parler des problèmes concrets qu'ils rencontrent, justement la question du premier rendez-vous, mais il y en a d'autres, que faire quand un enfant demande à aller faire pipi pendant sa séance, ou faut-il recevoir l'enfant ou les parents en premier, je me suis questionnée avec eux sur ce qui devrait être spécifique d'un psychanalyste dans l'exercice de sa fonction. Pour vous le faire appréhender, il faut que vous imaginiez que parmi les professionnels qui reçoivent des patients, le psychanalyste est le seul qui ne dispose comme instrument de travail que de lui-même, sa présence, son écoute, ses interprétations.
Mr. Soprano?
Yeah.
How are you feeling now?
Good. Fine. Look, it's impossible for me to talk to a psychiatrist.
Tous les autres spécialistes disposent de techniques, comme par exemple les orthophonistes ou les kinés, d'instruments ou d'examens complémentaires, comme les médecins. Les psychiatres ont des médicaments à leur disposition si nécessaire. Ça signifie qu'ils répondent assez directement à la demande du sujet, la guérison de ses symptômes. Ça ne signifie pas que le psychanalyste soit indifférent à la guérison ou ne la vise pas, mais son pouvoir est du côté de celui qui fait une analyse. C'est toute la différence. Un psychanalyste peut maîtriser parfaitement la théorie et ne pas savoir faire d'une rencontre avec son patient quelque chose de différent où rien ne sera fait pour lui procurer ce qu'il demande consciemment. Françoise Dolto l'écrit à sa façon. Le rendez-vous avec le psychanalyste, c'est une rencontre à travers l'autre avec son propre mensonge. Fin de citation. Le mensonge, c'est le symptôme si l'on considère qu'il a un sens. Venons-en maintenant à ce fameux rendez-vous. Comment prenait-on rendez-vous avec Freud à Vienne au tout début du XXe siècle ? J'ai trouvé deux situations différentes, dont le seul point commun est que ces deux personnes ont été introduites par un tiers auprès de Freud, qui ne répondait pratiquement jamais au téléphone. Dans la correspondance intégrale entre Marie Bonaparte et Sigmund Freud, parue récemment aux éditions Flammarion, la première lettre de Marie Bonaparte, qui est datée du 27 juin 1925, est justement consacrée à sa demande de rendez-vous. L'on apprend, je cite, que M. Laforgue a eu la bonté de vous écrire à mon sujet. En effet, René Laforgue, qui plus tard a été le psychanalyste, entre autres, de Françoise Dolto et de Minnie Grégoire, avait demandé à Freud de recevoir Marie Bonaparte, mais il avait refusé. Pourquoi ? Parce que, vivant à Paris avec ses deux enfants, Marie Bonaparte demandait à ne pas rester trop longtemps à Vienne. Freud avait d'abord répondu à la Fork, je cite, « Cette analysante devra accepter exactement les mêmes obligations que les autres patients », avant de préciser sèchement dans la lettre suivante « Une analyse qui m'oblige à en abandonner une autre ne peut me tenter », car il ne voulait pas prendre trop de patients. La Fork ne voulant plus insister, Marie Bonaparte lui écrit alors directement en revenant sur son exigence d'imposer la durée de son séjour. Freud lui répond 10 jours plus tard en lui écrivant « Votre Altesse Royale, la lettre que j'ai reçue de votre part me permet de changer de décision puisqu'elle fixe le début de l'analyse au 1er octobre et ne donne pas de date précise pour la fin. Je peux donc vous accepter et me réjouirai de vous voir le 30 septembre après-midi pour discuter de cette heure, en fait cette heure c'est la durée des séances, dans mon appartement en ville. Voyez en cela un signe de la bonne volonté que je mets à exaucer vos vœux. » Où l'on voit que Freud ne veut pas se laisser imposer le cadre. Ce n'est pas au patient de fixer la durée de la cure. Celle proposée par Marie Bonaparte peut nous faire rêver, 2 mois et demi, mais avec une séance par jour, sauf peut-être le dimanche. Mais c'est bien Marie Bonaparte qui s'est imposée à Freud, comme il le reconnaît, avec quand même une certaine ironie. Qu'est-ce qui a vraiment conduit Freud à changer d'avis? Je l'ignore. Certainement autre chose que la lettre très factuelle et peu séduisante de Marie Bonaparte. Peut-être a-t-il senti qu'aucun refus ne la rebuterait et qu'elle arriverait à ses fins. Heureusement pour elle et pour nous, qui avons maintenant le privilège de lire cette passionnante correspondance.
Je suis sauvée. Vous m'avez sauvée.
Ne dites pas sauvée, dites libérée. Et c'est vous. Vous seule.
Vous êtes un être unique. Par la force de votre pensée et aussi par votre caractère. Il n'y en aura jamais d'aussi grand que vous, il n'y en a jamais eu.
Allez donc.
L'inconscient, avec Caroline Eliachef, sur France Inter.
Le poète et écrivain Bruno Goetz, lui, a rencontré 3 fois Freud en 1905, à l'âge de 20 ans, alors qu'il écoutait des conférences sur la psychologie et l'hindouisme à l'université de Vienne. Par chance, il a conservé et retrouvé des années plus tard les notes qu'il avait prises après ses rendez-vous, rapportant fidèlement les propos de Freud. Son professeur de psychologie avait remarqué qu'il souffrait de violentes névralgies faciales et lui avait conseillé de consulter Freud, auprès de qui il l'avait introduit, et à qui il avait confié quelques poèmes de son étudiant. Par l'intermédiaire de ce professeur, Freud avait fixé un rendez-vous au jeune homme plutôt réticent. Contrairement à Marie Bonaparte, il n'avait jamais entendu parler de Freud. Mais avant son rendez-vous, il s'était procuré l'interprétation des rêves à la bibliothèque. En tant qu'artiste, il n'avait pas du tout apprécié ce livre, doutant fort par ailleurs que les procédés d'analyse décrits par Freud puissent lui être de quelque utilité. C'est un peu dans ces dispositions que les enfants arrivent dans nos consultations, amenés par un parent et plutôt méfiants. Bruno Goetz raconte l'effet que l'homme Freud a produit sur lui. Il se souvient, je cite, « de ses yeux merveilleusement bienveillants, chaleureux, reflétant une mélancolie qui donnait à penser qu'il en savait long. » Et il ajoute « En même temps, j'eus l'impression, comme si une main effleurait rapidement mon front et les douleurs en furent comme effacées. Je n'avais jamais vu pareil homme. Au même instant, je conçus pour lui une confiance sans réserve. » Fin de citation. Voilà ce qu'on appelle un transfert positif, induit par la présence physique de Freud et ses yeux merveilleusement bienveillants. Engagé à répondre à la question « Au fait, d'où êtes-vous ?», Bruno Goetz lui raconte en une heure, sans être interrompu, toute sa vie, sans aucune retenue, ajoutant pour son ami à qui ses notes étaient destinées « Quel sens y aurait-il donc à lui en cacher quoi que ce soit ? Tout en effet lui était connu d'avance. L'écoute de Freud fait saisir au poète ce que Lacan plus tard, en 1964, a appelé le sujet supposé savoir. Bruno Goetz aime Freud, c'est le transfert positif, et suppose qu'il sait tout d'avance. Ce que Lacan résumera en 1973 par cette formule lapidaire dont il avait le secret, le transfert, c'est l'amour qui s'adresse au savoir. Fin de citation. Ceci complète la définition de l'inconscient que je vous ai donnée au tout début. L'inconscient, c'est ne pas savoir ce que je sais. Car pendant l'analyse, l'un, le transfert, ne va pas sans l'autre, l'inconscient. Mais l'analyste, lui, n'a pas à se prendre pour un sachant. Le sujet supposé savoir est une fonction transitoire, d'autant plus qu'en réalité, l'analyste ne sait pas grand-chose, sinon occuper cette fonction sans en abuser. Donc, pas la peine d'avoir la grosse tête, mais plutôt une immense modestie. Revenons à Bruno Goetz. Il a d'abord perçu la présence physique de Freud, puis son écoute, pendant une heure, sans interruption, sans le regarder, en riant souvent doucement, précise Goetz, ce qui nous montre combien lui-même a observé Freud. Ensuite, un dialogue s'est instauré. Et enfin, Freud a conclu en lui disant « Eh bien, mon bon ami Goetz, je ne vous analyserai pas, vos complexes feront votre salut. Pour ce qui est de vos névralgies, je vais vous prescrire une ordonnance qui vous fera du bien. » Voilà Freud qui sort de sa position d'analyste pour prescrire en médecin, ce qu'il est également. Mais on peut dire aussi qu'il se conduit en psychanalyste en posant l'indication de ne pas faire de psychanalyse. Le médicament vient en quelque sorte par surcroît confirmer à Goetz qu'il ne doit pas faire d'analyse, alors même qu'en une séance, il a fait une analyse sans le savoir. La fin de cette consultation est bouleversante. En rédigeant son ordonnance, Freud s'enquiert de savoir s'il est vrai que le jeune homme n'a pratiquement pas d'argent, qu'il vit à l'étroit et n'a pas mangé de viande depuis 4 semaines. Avec son ordonnance, il lui tend avec embarras, dit Goetz, une enveloppe en lui disant « Permettez-moi pour une fois de jouer aujourd'hui le rôle de votre père, de petits honoraires pour la joie que vous et l'histoire de votre jeunesse m'ont apportée. » Fin de citation. Quand Bruno Goetz, de retour chez lui, ouvre l'enveloppe, il y trouve 200 couronnes et fond en larmes. L'inventeur de la psychanalyse qui donne de l'argent à un patient, ça devrait ébranler tous vos a priori vis-à-vis de la psychanalyse. Admettons quand même que ce ne soit pas fréquent. Et ne vous attendez pas à recevoir de l'argent, même si vous êtes jeune et pauvre. Quant au poète, guéri de ses névralgies, il attribuera sa guérison aux remèdes prescrits par Freud. Vous voyez qu'il faut rester modeste. Depuis Freud, est-ce que la prise de rendez-vous chez le psychanalyste a changé ? La recommandation par un ancien patient ou un autre professionnel qui donne une adresse existe bien sûr toujours, mais la technologie, elle, a évolué. On est passé du téléphone fixe au portable, du répondeur téléphonique au SMS ou au mail, et enfin à Doctolib. Un rendez-vous dans un centre médico-psychologique se prend par téléphone sans s'adresser à une personne précise, mais à l'institution. Ce n'est pas nouveau, car les premiers psychanalystes ont immédiatement eu à cœur de rendre la psychanalyse accessible à tous et ont créé des centres de consultation gratuites. Dans un cabinet à plusieurs, le rendez-vous se prend auprès du secrétariat. C'est intéressant d'y réfléchir, parce que ça met en pratique différemment ou dévoie certains principes, ce qui ne peut pas être sans conséquence sur la suite, pas forcément de façon néfaste d'ailleurs. Avant de rencontrer Marie Bonaparte ou Bruno Goetz, Freud avait eu des renseignements par les personnes qui les lui avaient adressées, mais n'avait eu aucun contact direct avec eux. Aujourd'hui, ce sont plutôt les patients qui ont des renseignements par Internet sur le psychanalyste qu'ils contactent. Il me semble que ça soit plus encombrant pour eux que pour nous, si l'on en juge par la gêne qu'ils éprouvent à en parler, comme s'ils avaient transgressé un interdit. Pour fantasmer la vie de leur psy, ils étaient plus libres quand ils n'en savaient rien.
Allô ?
Ne quittez pas. Pour les instructions en français, faites les deux. For instructions in English, press one.
Allô ?
Vous êtes en contact avec un répondeur automatique. Vous pouvez poser une question après le bip sonore. Il vous sera répondu.
Dès que les avancées technologiques ont permis de laisser un message vocal sur répondeur téléphonique ou écrit par SMS, la personne qui n'est pas encore un analysant laisse plus ou moins d'informations, mais surtout demande qu'on la rappelle. Ça a l'air parfaitement anodin, mais ça ne l'est pas, car ça inverse le sens de la demande. Ce n'est plus une personne qui demande un rendez-vous, mais un psychanalyste qui le propose. D'ailleurs, il est rare que la personne qu'on rappelle ne manifeste pas sa surprise. On ne saura pas si c'est une heureuse surprise ou si elle avait secrètement espéré qu'on ne la rappelle pas. Si Doctolib plaît aux usagers qui peuvent prendre rendez-vous à n'importe quelle heure avec quelqu'un qui affiche son profil, ses compétences et ses prix, c'est plus compliqué pour les professionnels qui sont souvent, mais pas toujours, de jeunes psychologues qui se font rapidement une clientèle. Devrait-il chercher à se différencier d'un rendez-vous chez un médecin, avoir un contact téléphonique préalable et comment le faire? À chacun de se poser la question, sinon de trouver une solution. Car la prise de rendez-vous à distance, sans aucun contact, dans un anonymat réciproque total, le rappel automatisé du rendez-vous par SMS et enfin la possibilité de noter le psy comme un produit de consommation n'a plus rien à voir avec l'expression incarnée d'une demande. Côté patient, lorsque contact téléphonique il y a avant le premier rendez-vous, ce contact est bien particulier. Nous avons tous des anecdotes à ce sujet, comme cette femme qui, sans préambule, demande le prix de la séance. Ou ces personnes qu'on n'arrive pas à arrêter de parler, alors que nous savons que nous n'allons rien retenir. Du tact et de l'imagination dans la répartie, pour ne pas blesser avant l'heure, sans répondre aux questions, tout en restant accueillant. C'est déjà être psychanalyste. Si je me suis étendue sur la prise de rendez-vous, c'est pour vous montrer, comme je le fais avec mes collègues, que tout peut être une occasion de rencontrer une personne pas tout à fait comme les autres. Susceptible parfois de faire surgir une question à laquelle elle n'aurait pas pensé. La suite, c'est évidemment la première consultation, et plus particulièrement celle des enfants, car c'est le sujet que je connais le mieux. Le livre sur le sujet est celui de Maud Manoni, préfacé par Françoise Dolto, « Le premier rendez-vous avec le psychanalyste », paru en 1965 aux éditions Gontier. Plus de 50 ans plus tard, il a pris très peu de rides. Ces deux éminentes figures de la psychanalyse pour enfants les recevaient dans les institutions où elles travaillaient, bien plus que dans leur cabinet en ville. Les familles étaient envoyées par un médecin ou un éducateur qui connaissait leurs difficultés. Les familles ne savaient pas qui elles allaient rencontrer et les psychanalystes ne savaient quasiment rien de leurs patients. Encore une digression, mais je ne peux pas m'empêcher de vous mentionner que pour en arriver à cet anonymat protecteur, bien que transitoire, les enfants de psychanalystes ont payé un lourd tribut. Anna Freud d'abord, analysée par son père, les enfants d'Ernest Jones analysés par Mélanie Klein, le fils de Mélanie Klein adressé à Winnicott et le neveu d'Hermine von Hugh-Helmuth en analyse chez sa tante qu'il finira par assassiner. Aujourd'hui, pour nos enfants, nous cherchons avant tout quelqu'un qui ne nous connaît pas et que nous ne connaissons pas. Maud Mannoni a 15 ans de moins que Françoise Dolto, un parcours fort différent et elles ne se ressemblent pas du tout. Elles ont en commun d'avoir créé plus tard, avec d'autres, des lieux totalement novateurs. En 1969, Maud Mannoni fonde l'école expérimentale de Bonneuil, un lieu de vie et une structure expérimentale, donc, pour l'accueil d'enfants et d'adolescents autistes, psychotiques ou présentant des névroses graves. En 1979, Françoise Dolto crée la Maison Verte, lieu d'accueil et d'écoute des tout-petits, de la naissance à leur quatrième anniversaire, accompagnés par leurs parents ou par ceux qui s'en occupent habituellement et justement sans prendre rendez-vous. Deux lieux fort différents, mais qui montrent qu'il peut y avoir une écoute analytique dans un cadre donné, en dehors du divan. Il est rare que des lieux de cette sorte survivent après la mort des fondatrices. Or, c'est le cas. Bonneuil existe toujours, et il y a des maisons vertes dans le monde entier. Maud Mannoni a également fondé une école de psychanalyse, Espace Analytique, qu'elle a présidée jusqu'à sa mort en 1998. Françoise Dolto, elle, n'a jamais voulu fonder d'école. Elle est restée fidèle à Jacques Lacan presque jusqu'au bout, mais elle était contre les institutions de psychanalyse, regroupant la formation, la recherche et le perfectionnement de chacun. Ce livre, Le premier rendez-vous avec le psychanalyste, où Maud Mannoni rapporte les notes qu'elle a prises après la première consultation, reste totalement d'actualité, notamment pour les motifs de consultation qui sont quasi identiques aujourd'hui. Désordre scolaire, difficultés caractérielles allant jusqu'à la délinquance, réactions somatiques comme l'énurésie, les migraines, l'anorexie, les troubles du sommeil, le mutisme ou un début de psychose. Maud Mannoni décrit d'abord une situation, dégage une structure familiale et souvent un certain désordre familial, puis cherche le sens du symptôme, considéré comme un langage ayant un sens à décrypter. Ce livre reste remarquable, pas seulement parce qu'il est toujours passionnant de lire des histoires de famille, mais parce qu'il porte la marque de l'écoute analytique de Maud Mannoni, cette écoute que j'essaie de vous faire saisir depuis le début de cette émission. Il est aussi remarquable que plusieurs consultations n'aient pas de suite, soit parce qu'il n'y a pas d'indication de psychanalyse, soit que les gens ne reviennent pas. Ça ne signifie pas que la psychanalyse ne sert à rien, mais que Maud Mannoni, comme d'autres, n'hésite pas à parler de ses échecs. On apprend davantage de ses échecs que de ses réussites, et ils servent à d'autres. Voici comment Françoise Dolto, dans sa préface très élogieuse à l'endroit de Maud Mannoni, définit cette écoute. Je la cite. « Aux angoisses et aux demandes de secours des parents ou des jeunes, le psychanalyste permet que se substitue la question personnelle et spécifique du vœu le plus profond du sujet qui lui parle. Cet effet de révélateur, il l'obtient par son écoute attentive et sa non-réponse directe à la demande qui lui est faite d'agir pour faire disparaître le symptôme, pour apaiser l'angoisse. Le psychanalyste, en suscitant la vérité du sujet, suscite à la fois le sujet et sa vérité. » Fin de citation. Ça me rappelle la première fois qu'elle a rencontré Dominique, ce garçon de 14 ans, incapable d'entreprendre des actions de la vie courante depuis l'enfance, dont elle a raconté les 12 séances de psychanalyse dans le cas Dominique. Après avoir accueilli l'adolescent et sa mère, elle l'envoie dessiner dans la salle d'attente et reçoit très longuement la mère seule. Puis Dominique, qui d'emblée lui dit « Voilà, moi, je ne suis pas comme tout le monde. Quelquefois, en m'éveillant, je pense que j'ai subi une histoire vraie. » Ce à quoi Françoise Dolto lui répond du tac au tac « Qui t'a rendu pas vrai ?»« Mais c'est ça. Comment est-ce que vous savez ça ?» lui a-t-il rétorqué. Et Françoise Dolto lui dit « Je ne le sais pas, je le pense en te voyant ». Voilà ce qui s'appelle susciter le sujet et sa vérité. Je vous remercie de m'avoir écouté, en espérant vous avoir un peu déçu en ne répondant pas totalement à votre attente, mais pas trop, pour que vous ayez la curiosité de m'écouter à nouveau le mois prochain.
France Inter présente son premier podcast interactif, L'inconscient, avec Caroline Eliachef.
Restez à l'écoute. Après le disque, je vais répondre aux questions que vous m'avez adressées sur la page de l'inconscient. Je vous rappelle que vous pouvez nous laisser vos questions après avoir écouté ce récit en podcast, soit par note vocale sur le site, soit sur notre répondeur au 01 56 40 64 04. C'est à vous maintenant de poser vos questions. Je vous écoute.
Bonjour, je m'appelle Marie et je vous appelle de Lille. J'ai découvert le podcast il n'y a pas très longtemps. Je l'ai trouvé très intéressant et justement, j'avais une question sur la prise de rendez-vous. Alors voilà, je voulais consulter un psy il y a déjà un petit moment. On m'a donné le nom d'un praticien. J'ai voulu regarder sur Internet de qui il s'agissait plus précisément. Et là, j'ai été assez étonnée. Il n'est pas sur Doctolib, il n'a pas de site Internet et il n'est même pas dans l'annuaire. Alors apparemment, il a écrit un ou deux articles. Donc voilà, je pense que c'est un professionnel compétent, mais ça ne m'inspire pas tout à fait confiance. Donc voilà, je voulais avoir l'avis de Caroline Eliachef à ce sujet. Merci.
Très bien, je vais vous donner mon avis. La plupart des psychanalystes ne sont pas sur Doctolib. Certains le sont, d'autres ne le sont pas. Être sur Doctolib n'est pas une garantie. Avoir un site internet non plus. Mais vous avez eu la réaction qu'ont aujourd'hui la plupart des gens, c'est ce que j'ai essayé d'expliquer d'ailleurs dans l'émission qui a précédé, c'est d'aller voir à qui ai-je affaire, à qui ai-je affaire. Il y a une chose dont vous ne parlez pas et qui, à mon avis, est la plus importante, c'est qui vous a donné cette adresse. Si vous faites confiance à la personne qui vous a donné cette adresse, peut-être que ça suffit. Vous n'avez pas besoin d'aller voir sur Doctolib ou ailleurs qui est cette personne. En tout cas, ce n'est absolument pas une garantie de quoi que ce soit, d'y être ou de ne pas y être. Il y a un inconvénient, j'ai essayé d'en parler pour les psys, d'être sur Doctolib, c'est-à-dire effectivement, c'est une prise de rendez-vous sans contact et la plupart des professionnels qui sont sur Doctolib demandent généralement à avoir un contact avant de vous recevoir.
Bonjour. Concernant le symptôme qui est la cause de la prise du premier rendez-vous, d'une part, il peut être considéré, selon Françoise Dolto, comme un mensonge. Mais d'autre part, il a un sens révélateur du sujet et de sa vérité. Vous nous l'illustrez avec le cas Dominique. Cependant, en quoi le symptôme peut-il être considéré comme un mensonge ? Merci pour vos éclaircissements.
Alors, question intéressante, pas forcément facile, parce que le symptôme est à la fois un mensonge et une vérité. C'est un mensonge dans la mesure où il ne va pas droit au but, il masque ce qu'il a provoqué. En ce sens, c'est un mensonge. Et par ailleurs, c'est également une vérité, puisqu'il a un sens, et que, en recherchant le sens, on découvrira la vérité de ce symptôme. Alors, je vais vous donner un exemple concret, justement, qui concerne Françoise Dolto. Françoise Dolto avait de nombreux frères et une sœur, et elle était au milieu de la fratrie. Et petite fille, elle se rendait compte que, quand la personne qu'on appelait la bonne d'enfance, c'est pas du tout péjoratif à l'époque, hein, je le précise, avait des ennuis ou avait bu un peu d'alcool ou était dans un état pas tout à fait normal, un de ses frères tombait systématiquement malade. Donc on appelait le médecin, il vomissait, ça allait pas du tout, etc. Donc ça c'était le symptôme. En quoi était-ce un mensonge ? Ben, c'était un mensonge parce que ce qu'il voulait dire, c'est la bonne d'enfant a trop bu et ça me trouble. En même temps, c'est une vérité puisqu'il manifestait quelque chose qui se passait pour lui. Voilà. Donc effectivement, les enfants qui viennent nous consulter ont un symptôme et on s'en détache assez rapidement pour trouver la vérité de ce symptôme.
Bonjour, je m'appelle Nathalie et je voudrais apporter un témoignage parce qu'il m'est arrivé dans le passé de prendre rendez-vous avec quelqu'un que j'avais trouvé dans l'annuaire qui se trouvait être proche de chez moi et qui a fait des histoires pour me donner un rendez-vous, pour me donner la date et l'heure du rendez-vous. Je dis faire des histoires parce que c'était vraiment un caprice. Je ne pouvais pas venir entre midi et deux. J'avais seulement une demi-heure et il m'était absolument impossible de me déplacer et de faire ensuite la consultation pour dans ce laps de temps. Et la personne a insisté lourdement pour que ça se passe de cette façon. Donc au bout de quelques minutes, j'ai finalement réussi à obtenir un rendez-vous en fin d'après-midi, ce qui me convenait mieux. Et je dois dire que la première consultation s'est également passée de façon un peu étrange pour moi. Il m'a donné un grand malaise. Et en fait, je suis rentrée avec une grosse sensation de malaise parce que n'ayant jamais été patiente d'une thérapeute, d'une psychothérapeute, d'un psychiatre, etc., je ne savais pas si ma réaction de malaise et le fait que je n'ai pas vraiment envie de revoir cette personne était normal, faisait partie de la réaction de mon inconscient au fait que j'essaye de travailler sur mes problématiques personnelles, ou si c'était vraiment quelque chose qu'il fallait que je traite et pour lequel il fallait que j'agisse. J'ai eu la chance quand même d'avoir l'idée de téléphoner à quelqu'un qui était psychothérapeute. En France, alors ça se passait à l'étranger, j'ai appelé la personne en France et elle, je n'étais pas sa patiente, mais c'était la seule personne du métier que je connaissais et qui m'a dit, alors elle ne m'a pas dit quoi faire, mais elle m'a expliqué que si vraiment je me sentais très mal à l'aise, c'était peut-être pas la peine de continuer parce que c'était peut-être réciproque, etc. Finalement, j'ai annulé le rendez-vous, j'ai trouvé un autre thérapeute que j'ai appelé et dès le décrochage de téléphone de son côté, j'ai eu une voix chaleureuse au bout du fil qui était ce à quoi je m'attendais. Il a été extrêmement pragmatique pour la prise de rendez-vous. Je téléphonais depuis mon bureau au travail. Il a voulu savoir pourquoi j'ai appelé et je lui ai simplement dit « je téléphone du travail ». Il a tout de suite compris, il m'a dit « ok, on va en parler directement face à face, je comprends ». Et c'était exactement la douceur et la bienveillance que j'attendais et qui n'est peut-être pas ce que tout le monde attend, que tous les patients attendent. Mais dans ce cas-là, je me suis sentie très à l'aise dès la prise de rendez-vous, et ça s'est confirmé au cours du premier entretien et des entretiens suivants. Donc je voulais savoir si vous pouviez partager ce que la première prise de contact amène également aux patients. Merci beaucoup, au revoir.
Mais oui, je peux tout à fait partager ce que la prise de rendez-vous fait ressentir aux patients. Bon, vous êtes tombé sur quelqu'un qui a voulu, d'une certaine manière, s'imposer à vous, sans absolument vous connaître ni quoi que ce soit, imposer ses horaires et pas les vôtres. Et donc, voilà, ça ne va pas. Et ça s'est confirmé. Alors, je trouve votre réaction extrêmement saine. D'une part, vous vous posez des questions sur vous-même. D'autre part, vous vous posez des questions sur la personne que vous avez rencontrée. Les questions sur vous-même, vous verrez plus tard si elles ont lieu d'être approfondies. Et autre réaction que j'apprécie énormément, vous demandez conseil à quelqu'un à qui vous faites confiance et qui vous donne un très bon conseil. Vous vous sentez mal avec cette personne, ben non, vous n'allez pas y retourner. À l'évidence, on ne commence pas des entretiens avec quelqu'un avec qui on se sent mal. Alors, de notre côté à nous, il faut quand même que je vous dise quelque chose, on n'est pas capable de recevoir tout le monde. On n'est pas bon pour tout le monde. Donc, nous aussi, il nous arrive de pas être tout à fait à l'aise. Bon, on n'a pas tout à fait les mêmes réactions que vous, parce qu'on n'appelle pas une copine pour savoir à quoi c'est dû, mais ça nous arrive aussi. En tout cas, de votre point de vue, vous avez bien réagi, vous avez eu raison de vous fier à ce que vous ressentez. Des psychanalystes, il y en a, et il faut que vous commenciez une cure ou ce que vous souhaitez avec quelqu'un qui vous convient. Nous poursuivons avec l'écoute de vos questions.
Bonjour, c'est Sophie à l'appareil. J'ai une question pour vous. Comment faites-vous, en fait, est-ce qu'il y a une méthode, entre guillemets, particulière pour articuler, justement, comme vous dites, théorie et pratique? En fait, comment vous vous y prenez au niveau, est-ce que c'est de la, comment dire, l'écoute des cas et à chaque fois en partant du cas pratique et du coup, voir un petit peu les différentes façons d'aborder le cas pratique, ou est-ce que vous avez défini une sorte de entre guillemets de méthodologie ou de plusieurs approches par rapport à votre ancienneté sur le fait de superviser comme ça des psychanalystes. Donc si vous avez des clés à nous apporter, je vous en remercie, et qui peuvent être finalement un peu transposables à d'autres choses dans nos vies, à d'autres métiers surtout dans nos vies. Je vous remercie beaucoup et à très bientôt, et au plaisir de vous écouter tous et toutes.
Merci pour cette question. À la fin, vous dites que ça concerne beaucoup de métiers, vous avez raison. Dans beaucoup de métiers, on pourrait s'interroger ensemble, dans des groupes de supervision, sur la façon dont on applique les règles. Et personnellement, je l'ai fait pendant très longtemps avec les juges des enfants et les juges des affaires familiales au tribunal de Paris et de Bobigny. Donc c'est une pratique que j'aime beaucoup. Pour répondre un peu plus précisément... Comment vous dire ça ? La théorie n'est pas faite pour être appliquée. C'est la pratique qui va nous enseigner la théorie. Si on cherche à appliquer la théorie, ça ne va pas aller. Pourtant, il faut connaître la théorie. C'est-à-dire que quel que soit son métier, en particulier la psychanalyse, là je vais parler des enfants, nous avons une représentation de ce qu'est un enfant. Nous avons une représentation et nous l'avons apprise. Donc nous nous représentons un enfant, nous nous représentons son développement. Et pourtant, quand nous voyons cet enfant, nous n'allons pas tenter d'appliquer ce que nous avons appris à l'enfant que nous avons en face de nous. Nous allons nous trouver face à des problèmes, des petits problèmes techniques. Et moi, c'est là-dessus que j'attire l'attention de mes collègues. La théorie est absolument indispensable, et bien entendu, dans tous les métiers. Mais il ne s'agit pas d'appliquer la théorie à la pratique, il s'agit que par la pratique, nous remontions à la théorie. C'est le charme de notre métier en même temps.
Valérie à l'appareil, merci pour cette belle émission qui vient rappeler la singularité des rencontres entre l'analyste et son patient. Concernant la prise de rendez-vous pour un enfant, pourriez-vous nous parler de cette drôle de situation où ce n'est pas le patient qui appelle ou demande, mais souvent un parent? Merci et à très bientôt.
Merci Valérie pour cette question. Effectivement, vous pointez un sujet qui nous interroge et qui interroge les parents. Alors, il y a une question d'âge. Il est évident que pour un enfant, c'est les parents qui prennent rendez-vous. La question, c'est pas tellement ça. La question, c'est que vont-ils dire à l'enfant quand ils vont l'amener? Alors souvent, les parents disent « on va voir la dame ». On va voir la dame et donc le mystère reste entier. Il me semble que les parents pourraient être un petit peu plus explicites et dire à cet enfant la raison de cette prise de rendez-vous. Voilà, ça c'est une première chose. Maintenant, vous avez les adolescents. Alors les adolescents, c'est un peu différent. Les parents peuvent prendre rendez-vous pour un garçon ou une fille adolescent, ou ils peuvent, ça dépend des situations bien entendu, ils peuvent lui laisser prendre rendez-vous. Là, ça dépend. Mais en tout cas, ce qui est quasi impossible, c'est de prendre un rendez-vous pour un adolescent qui ne veut pas venir. Voilà, là, ça va pas être possible. Alors, parfois, les parents sont très embarrassés parce que ils ont parfois de bonnes raisons de penser que leur fils ou leur fille adolescent devrait consulter, mais il ne veut pas. Dans ces cas-là, ce que les parents peuvent faire, c'est prendre le rendez-vous et venir eux-mêmes discuter. Voilà, dernière situation, une personne est majeure. Généralement, on demande au téléphone, quel âge a votre fils ou votre fille? Si il ou elle est majeur, on demande généralement à ce que ce jeune ou cette jeune prenne rendez-vous. Alors ça, c'est le cadre. Bien entendu, quand nous avons l'appel parent au téléphone, on doit pouvoir s'adapter. Je veux dire, si ce jeune majeur, pour une raison que nous ignorons a priori, souhaite que, ou ça serait plus facile pour lui que son parent prenne rendez-vous, on va pas, parce qu'on a des préjugés dans la tête, on va pas refuser. Voilà. La règle, c'est quand même, un majeur prend rendez-vous seul pour lui-même.
Bonjour, j'ai une question sur le sujet supposé savoir. Pouvez-vous nous en dire plus? Est-il une fonction, un fantasme ou bien les deux? Merci.
Alors, c'est une question difficile. Le sujet supposé savoir a été introduit par Jacques Lacan à propos du transfert. C'est ce que j'ai expliqué précédemment. Donc ça apporte véritablement quelque chose, parce que le transfert tel que Freud l'a analysé était assez gênant, même pour Freud, parce que ça pouvait aboutir à un transfert amoureux. Donc apporter l'idée du sujet supposé savoir était intéressante, ça ajoutait quelque chose de vraiment intéressant par rapport au transfert. Maintenant, de quoi s'agit-il? Il y a d'autres situations où... par exemple, si vous allez voir un médecin, vous supposez qu'il a un savoir, et il vaudrait mieux qu'il en ait un quand même, Hein. C'est-à-dire, il sait des choses que vous ne savez pas. Ça, c'est sûr. Enfin, en tout cas, vous pressentez qu'il sait des choses. Un professeur également a un savoir qu'il va chercher à vous transmettre. Chez le psychanalyste, la situation est différente. C'est-à-dire que l'analysant suppose que le psychanalyste sait quelque chose. Mais le psychanalyste, en fait, ne sait rien. Enfin, c'est pas qu'il sait rien. Le psychanalyste, il sait des tas de choses théoriques, etc., etc. Mais il ne sait rien de son patient. C'est-à-dire que c'est en supposant, c'est quand l'analysant suppose que son psychanalyste sait quelque chose, qu'il va transférer sur lui, mais le savoir est du côté de l'analysant. C'est pour ça que le psychanalyste ne doit pas s'imaginer, lui, qu'il sait quelque chose. Ça n'est pas une position de domination, une position... voilà, il faut pas qu'il s'y croie.
Bonjour. Au fil de mes rencontres avec des psychanalystes, j'ai été intriguée par l'agencement des cabinets, que ce soit le choix et la position des meubles. J'ai remarqué aussi qu'il y avait souvent une bibliothèque très dense qui déborde de livres, à tel point que ces livres finissent par être essaimés un peu partout dans la pièce, ce qui donne l'impression d'une sorte de foisonnement intellectuel constant, presque en suspens. Et surtout, je m'interroge beaucoup sur la place qu'occupent les tableaux. Et je me demandais finalement comment est pensé, comment même doit être pensé cet espace si particulier.
Alors c'est une question très intéressante. J'avais l'idée de proposer à un journal de décoration, enfin il n'y en a plus beaucoup mais quand même, de photographier les cabinets de psychanalystes. Alors, c'est à la fois un endroit, enfin pour nous, c'est un endroit à la fois intime et en même temps, c'est un endroit où nous recevons des gens de l'extérieur. Donc, on est chacun, je pense, assez attaché à notre cabinet. Certains mettent des objets personnels, d'autres pas du tout. Il y a des cabinets de groupe, c'est très différent hein, quand vous êtes chez vous ou quand vous êtes dans un cabinet qui est à l'extérieur de votre de l'endroit où vous vivez. Alors, si j'ai bien compris, vous connaissez plusieurs cabinets de psychanalystes. Donc, je crois que ça dit effectivement quelque chose de la personne qui vous reçoit. Et que j'ai l'impression aussi que du coup ça vous fait fantasmer, par exemple sur les livres, il y a partout des livres, donc effectivement ils doivent savoir plein de choses, etc. Donc ça vous donne des possibilités de projection de vos propres idées sur les objets que vous pouvez voir chez votre psychanalyste. Comme n'importe qui, il y a des psychanalystes qui ont du goût et il y a des psychanalystes qui n'ont aucun goût. Ou qui n'ont pas le même goût que vous, par exemple. Hein, mais je crois que ça dit vraiment quelque chose de qui nous sommes. Merci à tous pour vos questions. Merci à Maxime Goudard pour la technique et Audrey Ripouille pour la réalisation. Comme annoncé par Juan David Nasio fin décembre, l'émission L'Inconscient s'ouvre donc à de nouvelles voies. Clotilde Le Guil vous a plongé dans nos rêves la semaine dernière et dimanche prochain à 15h, vous serez en compagnie de Laurie Loffer. D'ici là, vous pouvez écouter son podcast sur notre page internet L'Inconscient sur franceinter.fr et lui laisser vos messages sur le site ou sur le répondeur au 01 56 40 64 04. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le dimanche 12 février.